Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Silence on Joue, Erwan Cario, bonjour. Aujourd'hui, on va parler Ubisoft qui abandonne les DRM, mais peut-être pour pire. Le planning Capcom des mois à venir, le com des coms, la PS3 finalement hackée, Dark Void de Capcom, Monsieur Fall de TrickTrack.net comme chaque semaine, et le jeu des Jeux Olympiques d'hiver Vancouver 2010. On a essayé, on va vous en parler, et voilà, et ce sera tout pour cette semaine, mais c'est déjà pas mal. Et je commence par accueillir mes deux chroniqueurs favoris, et Monsieur Fall, ce sera après, hein. Oui, bon, il fait pas déjà parti. Bon, bref. Clément Apap, bonjour Clément.
Bonjour.
Et Patrick Helio, d'Eurogamer.fr. Bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Clément, on commence avec toi.
On va parler d'Ubisoft, qui fait partie des gros éditeurs. Et comme tous les gros éditeurs, il est un peu préoccupé par le piratage.
Ooh.
Et donc jusqu'ici, la plupart de ses jeux PC étaient protégés par Starforce, donc un système un peu
pêle-couille. Starforce, ouais, le cauchemar.
Le cauchemar pour ouais. les acheteurs de jeux vidéo. Et donc là, en fait, il propose une autre offre qui est voilà dont on va parler, puisque en fait donc pour tous les jeux PC maintenant ça passera par un équivalent de Steam. Mm-hmm. Alors les avantages, c'est qu'effectivement il y aura plus besoin d'avoir de CD ou de DVD dans le PC pour lancer le jeu, donc c'est plutôt pas mal. Les sauvegardes seront sauvegardées sur les serveurs d'Ubisoft en
D'accord.
plus du PC, donc ça sera synchronisé, donc c'est pas mal, comme ça on pourra passer d'un ordinateur à l'autre. Et donc justement, on pourra jouer de n'importe quel ordinateur, on pourra installer les jeux sur n'importe quel ordinateur, on pourra jouer au bureau, chez un ami, et
pour jouer au bureau,
voilà,
et tout ce qui nous concerne,
et retrouver le jeu où on en est. L'inconvénient de la chose, effectivement, c'est-à-dire qu'il faut être constamment connecté à Internet.
En même temps,
pour lancer le jeu et après pour
Est-ce qu'aujourd'hui c'est une contrainte?
Alors oui et non, c'est-à-dire que sur PC on va dire de salon, non, parce que la plupart du temps ils sont toujours connectés.
Ouais.
Le problème, c'est que maintenant, enfin moi
le
problème,
laptop, ouais.
voilà, le problème que je vois, c'est que le jeu vidéo sur PC est en train de passer beaucoup aussi sur portable. Et sur portable, avoir une connexion, ça arrive, hein, mais une connexion permanente, c'est plus rare, quoi.
Ça, ou en cas de panne internet, ça arrive aussi,
c'est... Mais permanente, c'est-à-dire pendant qu'on joue,
voilà, c'est pas juste au lancement comme Steam.
Ça sert à quoi? Parce qu'une fois que le jeu est lancé, quand on a vérifié.
Ça sert à éviter que toi tu lances le jeu d'un côté, moi j'attends une heure, puis je lance le jeu de mon côté avec ton compte. Et voilà, ça oblige en fait à avoir un seul compte actif. Donc c'est
et peut-être que c'est
piratage.
Plus difficile à craquer.
C'est beaucoup plus difficile à craquer.
Ouais.
Et donc là c'est parti, hein, avec le premier jeu en bêta, là, qui est le dernier Settlers d'Ubisoft.
Ouais.
Donc là, tous les jeux Ubisoft PC utiliseront le même système.
Assassin's Creed 2 aussi, qui vient d'être annoncé pour avril ou mars. Mars, je crois.
Mars, ouais.
Donc, voilà. Après, est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est mieux? En tout cas, moi...
De toute façon, a priori, moi, tout ce qui peut me débarrasser de cette te de plaît la, de Star les... Force, c'est...
Oui, puis moi j'avoue que Steam, ce que j'adore dans Steam, c'est ne pas avoir le DVD à mettre dedans, et c'est quand même assez pratique.
Non,
quoi.
C'est vrai. Bon, on va
donc
voir,
à voir.
Patrick.
Oui. Alors, on va faire aujourd'hui un point sur le planning de Capcom. On sait qu'il y a eu des jeux qui ont été reculés, des jeux qu'on attend pas mal. Et l'éditeur vient de communiquer exactement quand sortiraient ces titres.
Ouais. Et c'est quand?
Alors, on y arrive.
Mais fin au suspense.
Et donc, moi, un des jeux que j'attends le plus, c'est Lost Planet 2.
Ouais.
Qui était, je crois, au tout début, qui était prévu sur début 2010. Et maintenant, on sait qu'il sortira le 18 mai, donc de 2010, donc cette année, 18 mai.
Oh, il reste un peu de temps encore.
Donc sur, voilà.
Non,
sur
mais c'est rigolo parce qu'on commence à avoir, moi j'avais fait le planning de début 2010 et il y avait, en fait, ça s'arrêtait en fin avril. C'est très chargé sur les 4 premiers mois. Et en fait, ça commence à se remplir, mais
on commence à avoir des jeux qui arrivent. Et évidemment, très attendu aussi, c'est le Super Street Fighter 4.
Ouais,
bien sûr. Donc lui, il a une date
très attendue par les accros, quoi, parce que
ouais, c'est un peu une référence quand même dans le jeu de baston. C'est
Street Fighter 4 est une référence, mais c'est sorti en 2009 quand même.
Oui, ouais. assez récemment. Mais ça serait intéressant de voir les ventes de cet add-on entre guillemets.
Ouais, ouais. Mm-hmm.
Donc lui, il est prévu pour le 30 avril 2010. On a ensuite Monster Hunter 3, qui est la version du fameux jeu qu'on connaissait sur PSP, c'est PS2. Lui, il arrive en avril. Donc sur Wii.
Ouais. Et ça, le genre de truc que je lancerai jamais, quoi. Enfin,
ouais, c'est pas ton.
Non, c'est pas
ta tasse de thé. Et puis une dernière news de chez Capcom. Alors c'est plus une news, un petit clin d'œil en fait. C'est le fait que des personnages de Gears of War, Marcus et Dominique pour ne pas les citer, vont faire une apparition dans Lost Planet 2.
Ouais. Voilà. Super. Wouhou, c'est génial. Voilà.
C'était pour conclure la news sur une note plus légère.
Mais est-ce que c'est est-ce que ça veut dire un crossover d'univers comme ça? Est-ce que finalement ça se déroule?
À mon avis, ce sera plus une apparition des personnages.
Un clin d'œil.
Voilà, c'est plus un petit clin d'œil.
Le com des com de la semaine dernière, Boom Chacal et Finkel qui devisent sur Monsieur Fall, notre énigme à nous. Monsieur Fall doit être limité dans le temps pour sa chronique, non. Pas tant que ça. Le truc rigolo, c'est que je trouvais que pour une fois, il ne parlait pas trop vite et qu'il faisait des efforts, sauf quand il donne le nom des auteurs, le nombre de joueurs et la durée, etc. Boom Chacal, là c'était Finkel, Boom Chacal lui répond. En fait, la chronique de Monsieur Fall est composée d'une seule et unique phrase qui fait 2 pages Word sans ponctuation. Et donc, quand Erwan lui donne la parole, Monsieur Fall prend sa respiration puis commence son accélération vocale crescendo jusqu'à la disparition totale d'oxygène dans son organisme. Effectivement, notre pauvre mémoire tampon sature plus ou moins tôt selon les individus. Il faut savoir buffériser, flusher, etc. Voilà, bon, on laissera Monsieur Fall répondre peut-être dans une chronique ultérieure. Aime-moi qui parle sur la 3D, Avatar, tout ça, dont on a reparlé encore la semaine dernière. La 3D après avoir vu Avatar ce week-end. Je me place à l'opposé d'Erwan. Oui, moi je suis un peu le casse-couille de service sur le sujet, hein, j'avoue. Pour Aime-moi, c'est l'équivalent du passage du noir et blanc à la couleur. La couleur n'étant rien obligatoire, mais permet de s'approcher de la réalité. La 3D, c'est pareil. Et donc c'est chouette, voilà. Mais je suis toujours pas d'accord, mais bref. Cytoplasme qui réagit sur Might and Magic Clash of Heroes. Je dois dire qu'à l'instar d'Erwan, Might and Magic Clash of Heroes ne me disait rien qui vaille. Je suis moi-même un ancien fan des jeux de rôle Might and Magic et des jeux de stratégie tour par tour Heroes of Might and Magic. Suivant vos conseils, j'ai donc tenté l'aventure. Effectivement, ce jeu est intéressant et addictif. Les combats sont plus complexes, stratégiques et difficiles que ceux de Puzzle Quest, quand même, à noter. Et je n'ai pas été très loin, mais pour l'instant, le seul bémol est la dose de hasard. Le placement initial des unités est aléatoire et peut changer du tout au tout. Le déroulement d'un combat selon qu'on se retrouve avec un dragon bien placé ou au contraire un endroit gênant. Voilà, mais moi je trouve que c'est un des intérêts comme ça au début d'un combat, on sait pas si on va en chier à cause d'un placement pourri ou alors le combat va être super facile. Enfin bon, je vous conseille à tous les deux, hein, il faut.
Ah mais je vais m'y mettre.
C'est prévu,
ouais, parce que moi
c'est
cherche maintenant je cherche vu que je l'ai fini, je cherche des
combien d'heures, rappelle-nous combien d'heures.
62 heures voilà. Et 8 minutes
en 5 jours
et maintenant je cherche des adversaires en multi parce que voilà. 3, 2, 1, 5! Il vient tout juste de sortir aux États-Unis, No More Heroes 2. Je suppose que c'est toujours Suda 51 qui est aux commandes. Voilà, pas de sortie prévue en, enfin si prévue évidemment, claire et nette en Europe, c'est je crois au premier trimestre ou semestre 2010. Voilà, bah, moi j'attends de voir ce que ça donne. Le premier m'avait un peu
moi c'était une bonne surprise.
C'était assez agréable finalement, mais un peu bizarre. J'étais pas allé
c'était
au bout.
C'était très barré comme univers. Ouais, c'est dommage qu'on avait une version très censurée, je crois, en Europe. Mais c'était un peu dommage.
Ouais. Bah, on va voir.
Espérons que cette version sera...
On en reparlera ici. Alors, la nouvelle du moment, la PS3. De toute façon, une console de jeu, le problème n'est pas de savoir si elle est craquable, c'est quand elle sera craquée. Donc, c'est arrivé. Il s'appelle George Hotz. Il est bien connu quand même sur internet parce que c'était lui il y a 2 ans qui avait hacké l'iPhone qu'il avait annoncé. Et donc là il a annoncé le 25 janvier 19 ans maintenant, il a annoncé avoir craqué la PS3 en 5 semaines, donc il a craqué. Alors l'explication, hein, je vous lis ça. Alors, sa première idée, c'était imbriquer une zone mémoire du processeur vectoriel avec le HTAB, puis changer le HTAB pour autoriser la lecture et l'écriture sur l'hyperviseur pour compromettre la PPU. Bien sûr. Et en fait, d'après ce qu'il a écrit, il a fait un espèce de blog pour suivre un peu jour par jour ses progrès et la progression de son travail. En fait, il a fait un peu le truc bas niveau, très très bas niveau, et il dit tout le reste n'est que logiciel. Voilà.
Mais mais en fait, c'était donc la seule console qui pour l'instant résistait aux assauts des pirates.
Elle avait pas encore été craquée, ouais. En fait, hein, en plus de 3 ans.
Il y avait aucun jeu PS3 en tout cas sur le net à ma connaissance, et donc là ça devrait arriver d'ici quelques mois apparemment, quoi.
Et donc a priori, d'après ce que dit George Hotz, c'est un système qui sera très 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 dur à colmater. En fait, c'est que lui il s'est intéressé vraiment à la structure même de la console, et donc
de toute façon ça risque de faire comme sur Xbox, c'est-à-dire que les consoles piratées existent, mais on peut pas jouer online avec. Donc,
ça bloque.
Ce qui est de plus en plus la parade des éditeurs, c'est le jeu online comme parade au piratage.
Et puis il y a aussi le format Blu-ray de la PS3 qui est plus lourd et qui
c'est vrai que c'est une des protections pour aussi, l'instant. Il y a pas énorme
des
de
jeux
travers,
plus lourds.
Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi, peut-être pour ça aussi qu'ils ont annoncé l'augmentation de la taille des Blu-ray en 2010.
Ouais, c'est une des grosses protections. Ouais. C'est vrai qu'il y a pas le graveur de Blu-ray, je sais pas qui on a, mais ouais, ça reste quand même très très minoritaire. Ouais. Et donc du coup, à moins qu'il y ait un système de lecture sur disque dur branché sur USB, etc. Voilà, on attend de voir ce que ça donne. Un des points intéressants, c'est quand même la capacité, même si c'est peut-être un petit peu hypocrite de dire ça, mais c'est la capacité des développeurs pour développer des systèmes alternatifs en plus que les jeux piratés. C'est quand même, sur la première Xbox, on a eu le droit à XBMC, qui est un excellent lecteur multimédia.
Mais apparemment, il y en avait pas mal déjà sur PS3, non?
Non.
Avec le Google que tu utilises.
Moi, j'utilise pour lire mes vidéos à partir de mon PC, hein, en fait, un PS3 Media Center, mais qui tourne sur mon ordinateur et qui permet de lire les films à partir de la PS3, mais l'interface en elle-même est complètement moisie, c'est-à-dire que je me balade sur les répertoires de mon disque dur, donc c'est pas terrible. Donc là, c'est vrai que des vraies interfaces, des choses comme ça, la communauté indépendante peut fournir des choses intéressantes, mais bon, bref. Voilà, donc on attend de voir ce que ça donne, mais félicitations à George Hotz, quand même la performance technique est pas mal. Dark Void de Capcom sur PS3, 360 et PC peut-être, je crois. Voilà, c'est un peu la sortie du moment, c'est un peu le jeu. Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Allez, on va commencer par vous. Allez, Clément, allez, je dois donner la parole.
Ouais, je vais aller vite, hein, pas du bien. J'ai trouvé ça monotone, j'ai trouvé ça peu varié, techniquement pas top. Voilà, je me suis. Voilà.
Bof.
Un gros bof. C'est étonnant d'ailleurs que. Enfin, disons que ce qui est étonnant, c'est qu'on attendait quand même beaucoup plus. C'était un jeu qui s'annonçait pas forcément comme le jeu de l'année 2010, mais on s'attendait quand même à un jeu de qualité, Capcom, une grosse prod. On s'attendait vraiment à un jeu, ouais. un jeu correct, quoi. Enfin, ouais. Un jeu avec des moyens derrière, etc. Et en tout cas, moi, j'étais plus que déçu. Franchement, il mérite pas du tout votre attention, ni la mienne. Voilà.
Voilà, au revoir. Patrick.
Alors moi j'ai pas eu malheureusement beaucoup le temps d'y jouer, j'ai joué avec toi en fait, on a fait une partie ensemble. Donc ouais, difficile de me prononcer, c'est vrai que ce que j'en ai vu, ça a l'air très classique, ça a l'air de pas inventer grand-chose dans le genre du jeu d'action troisième personne.
Enfin, ouais, moi juste pour rappeler, pardon,
pour resituer peut-être un peu le
pour resituer, voilà, c'est vrai qu'on a pas situé, côté hein. Cool, c'est qu'en fait c'est un jeu d'action à la troisième personne, mais on a un jetpack armé avec des canons.
Voilà,
le
donc
jetpack
en fait,
armé, on peut voler.
Alors
voilà.
En fait, oui, pour remettre dans le contexte, on est au début, avant la Première Guerre mondiale, dans ces eaux-là, ou années 20, je sais plus. Et en fait, c'est dans une espèce d'univers parallèle où il y a de la technologie, où on se balade dans une espèce de jungle amazonienne, et puis on découvre, il y a des extraterrestres, il y a des robots.
On se balade
dans une dimension parallèle.
Ouais, on a l'impression, on sait pas trop. On croise des Incas. Enfin,
et moi,
voilà.
C'est justement ce qui me parle dans ce jeu, c'est cet univers un peu série Z, un peu années 50.
C'est peut-être pour ça que Brad Pitt a acheté les droits.
Moi, en tout cas, j'ai envie de lui donner une chance, donc je vais essayer. Je vais prendre le temps de le.
Eh ben moi, pas du tout. Alors moi, mon bilan. Que ce soit clair, la plus grande question, je rejoins un peu Clément en étant un peu différent, c'est que je me demande juste pourquoi ce jeu existe. Il n'a aucune il n'a aucune raison d'exister. Il n'apporte rien. Il est clairement raté. Hein. Enfin, je veux dire, même la personne qui a bossé pendant 18 mois dessus ne peut pas dire c'est un bon jeu. Je veux dire, tout objectivement, ce jeu est raté. Il y a des défauts. On pourrait en lister. Il y a un passage qui est assez emblématique. Donc, c'est l'arrivée dans un espèce de village Inca en pleine jungle amazonienne où, en fait, on arrive et il y a une foule hyper dense de 12 personnages, donc qui se répartissent d'une manière équidistante sur environ une dizaine de mètres, donc en fait ça fait quand même des gros espaces entre chaque personne. Ils sont complètement immobiles, ils ne parlent pas, et donc on se balade, mais ils sont pas morts, hein. C'est pas des zombies, c'est des vrais personnages, et donc on se balade devant, on sait pas trop ce qu'il faut faire, on se rapproche d'un personnage au milieu qui nous parle, vous n'êtes pas les bienvenus ici, partez de sur le champ, point, c'est fini, et là ils arrêtent de parler, et en fait on ne peut pas passer à travers, c'est-à-dire qu'on peut pas passer, après avoir joué à Assassin's Creed, ça fait quand même un petit peu mal, il y a 1m50 entre deux personnages, mais il y a un mur invisible qui nous empêche d'aller de l'autre côté. Et autre chose, quand on s'accroche, en fait il y a un gros jeu qui permet de monter des parois d'étage en étage avec un espèce
les premières, caméra
les premières versions du jetpack, et en fait on voit ce qui se passe au-dessus de nous, et en fait le personnage s'accroche à un espèce de surplomb d'une main, donc ce qui est déjà une belle performance parce qu'il est de l'autre il doit avoir son flingue, mais d'une main, et ses pieds en fait il est à l'horizontale en dessous le surplomb, et donc en fait
il fait les abdos en même temps, ouais il fait les abdos
ah ouais ouais
temps,
non mais ouais. Des abdos, quelque chose de beau quoi, ouais. Parce que c'est, et donc c'est une position complètement absurde, c'est et tout le jeu est un peu à l'avenant, c'est-à-dire que d'une part au niveau du gameplay pur on n'est pas dans le truc honteux absolu, c'est-à-dire que quand caméra à l'épaule se rapproche, il y a un viseur, il y a des ennemis, quand on tire dessus, ils meurent. Voilà, donc jusqu'ici, tout va bien. Le pilotage, une fois qu'on a le rocketeer là dans le dos, le pilotage c'est une catastrophe absolue quoi, c'est-à-dire que viser des ennemis en déplacement,
viser en déplacement c'est chaud ouais.
Là un des trucs qui est le plus dingue dans ce jeu, c'est que le prologue, en fait on joue un personnage a priori avec l'équipement ultime, c'est-à-dire l'équipement qu'on aura au bout de quelques heures de jeu, etc. On l'acquiert finalement au bout de 3-4 heures de jeu je pense, et en fait on commence avec ce personnage là équipement ultime dans les airs à combattre des espèces d'ovnis un peu bizarres, et en fait juste à la fin de ce prologue on se dit j'ai pas envie d'arriver là quoi. J'ai pas envie d'arriver à l'équipement ultime. Je sais, le contrôle est pas possible. Il y a même pas de lock. Et en combat aérien,
il y a pas de lock, mais t'as un bouton pour regarder l'ennemi le plus proche de toi.
Ouais.
Mais bon, voilà.
Ouais. Oh, ouais, en gros, on alterne c'est comme peu, ça entre les sections.
Non, mais c'est
en...
peu inspiré. Hein,
je tiens.
Alors, j'ai pas vérifié le prix, mais au témoin d'un doute, 70 euros.
Ouais, je crois qu'il est pris fort. Ouais.
Ah, mais non, mais 70 euros, c'est même pas possible. Non, et en fait, on en discute sur le côté série B, si cher à Patrick. C'est vrai qu'il serait sorti aujourd'hui à 30 euros. En assumant le côté série B, jeu un peu moyen, pas trop fini, etc. Non, à la limite, il y aurait eu même, peut-être un côté
ouais, mais
affectif.
Même pas. Il y a tellement de jeux en ce moment. Voilà.
Il y a tellement de jeux en ce moment.
Non, mais c'est vrai, il faut... Voilà.
Voilà, donc Dark Void, Capcom a évité absolument. De toute façon, il y a Mass Effect 2 après, il y avait Darksider et Bayonetta avant. Donc vous avez largement de quoi faire, autre que ce jeu... Très très évitable, sauf pour Patrick qui essaiera, mais tu nous en reparleras évidemment. On va accueillir maintenant Monsieur Fall, comme chaque semaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeux de société. Bonjour Monsieur Fall.
Bonjour mon cher Arwan. Dans le monde du jeu de société, comme partout ailleurs, il est question de tendances, de trucs hype du moment qu'il faut avoir ou qu'il faut pratiquer. Et ce que les joueurs affectionnent actuellement est le jeu dit coopératif, ces jeux où l'on va jouer tous ensemble, main dans la main, des parties où il n'y a pas qu'un seul vainqueur, mais... Tout le monde peut gagner, main dans la main, faisons-nous des bisous et le monde ira bien mieux comme ça, mon cher Erwan. Bref, du jeu dit coopératif. Et cette semaine, mon cher Erwan, je vais vous parler de Space Alert, un jeu signé Vladash Vatil, édité par QWG, un auteur tchèque, édité par des Hollandais, distribué en France par Yellow. Vive l'Europe! Comme son nom le laisse deviner, Space Alert se passe dans l'espace. Vous êtes à bord d'un vaisseau spatial, vous explorez une galaxie lointaine, et voilà-t-y pas qu'il y a des alertes des vaisseaux ennemis adversaires et agressifs qui veulent vous attaquer. Vous allez donc devoir coopérer avec vos partenaires pour anéantir la menace alien, extraterrestre, méchante, belliqueuse qui veut faire exploser votre splendide petit vaisseau auquel vous tenez. Le jeu se pratique de 2 à 5. Vous avez un plateau au centre de la table qui représente le vaisseau avec un endroit pour les armes, un endroit pour les munitions, les défenses et les boucliers. Vous avez des pions représentant les membres d'équipage. Chaque joueur va gérer un membre d'équipage et chaque joueur a devant lui un petit plateau sur lequel il va placer des ordres de mouvement pour son personnage. Le petit plus, c'est que le jeu est livré avec un CD audio qui va servir de chronomètre. Vous allez mettre le CD dans un lecteur de CD audio, c'est mieux, et vous allez avoir un temps qui vous va s'égrener. Ça va vous dire avec une voix robotisée « Attention, alerte niveau 1, les vaisseaux entrent dans le champ, gnagnagna. » Et là, vous allez retourner des cartes qui va vous dire de quel côté vont arriver les vaisseaux, et vous avez un certain temps, donc délimité par ce CD, pour discuter avec vos partenaires et dire « Moi, je vais descendre aux armes, moi, je vais aller activer le bouclier, moi, je vais sur la gauche pour pouvoir tirer sur le truc. » Là-bas, on va faire niveau 2, un autre vaisseau arrive par derrière, attention, ça va exploser. Vous analysez à nouveau la situation, vous reprogrammez les déplacements de votre personnage en coordination avec vos partenaires, puis le CD va s'arrêter au bout de 7 minutes, et là, on va vérifier ce que vous avez fait, si l'enchaînement que votre bonhomme fait et que ceux des autres font que vous allez descendre les vaisseaux adverses avant que eux vous descendent. Vous avez bien compris, mon cher Arwan, c'est un jeu avec du stress, c'est un jeu coopératif, c'est un jeu plutôt calculatoire et basé sur de la logique. Dans le speed, c'est un jeu, ma foi, assez rigolo. Moi, je n'aime pas trop les jeux coopératifs, je vous le dis comme je le pense, hein. Mais dans le milieu du jeu ludique, des gens qui aiment les jeux avec de la coopération dedans, ce jeu fait un malheur, fait un carton. Je vous en rappelle le nom, Space Alert de Vladash Vatil, un jeu pour 2 à 5 joueurs. Les parties sont assez courtes puisqu'il y a un chronomètre, donc vous allez jouer entre 10 et 12 minutes maximum. Vous allez pouvoir enchaîner les parties, augmenter les difficultés d'arrivage des vaisseaux. Vous allez trouver le jeu aux alentours de 45 euros. La boîte est remplie de matériel. Voilà, mon cher Erwan, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Monsieur Fall, que je suspecte d'avoir lu les commentaires dans cette semaine, parce que alors là, il a pris sa respiration, il a pris son temps. Monsieur Fall de TrickTrack.net, alors vous êtes exempté de minutes culturelles cette semaine pour
mince.
Je sais que vous le regrettez, mais ce n'est que pour mieux revenir dès la semaine prochaine. À vue de nez, ça doit faire dans les 120-130 mètres, une belle performance de saut à ski. Non, pas
non,
du tout.
C'est pas ta partie,
Non, ça n'est pas ma partie. Vancouver 2010 chez Sega, le jeu officiel des Jeux Olympiques d'hiver qui commence début février. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Voilà. Voilà, je commence par vous parce que là, moi je suis très énervé.
Qu'est-ce que j'en ai? Alors, moi, le problème, c'est que je sortais, en fait, moi j'ai pas mal joué avant au Mario et Sonic chez Sega aussi, qui était aussi aux Jeux Olympiques. Donc, un jeu qui est plutôt flashy avec pas mal d'épreuves dans tous les sens et tout. On peut aimer ou pas le graphisme, mais c'est vrai que le jeu est assez fourni et il est assez riche, en fait, le Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Et c'est vrai, quand on passe de celui-ci, donc, qui est sur Wii, et quand on arrive sur cette version next-gen, c'est un petit peu plus tristouille quand même au niveau.
Austère, hein, quand même. Hein.
Au niveau de l'habillage.
C'est très austère.
C'est pas du tout le même topo que le Mario et Sonic.
Ouais, alors, ce qui est bizarre, déjà, première chose, moi qui m'a choqué, c'est qu'en fait.
Tu es choqué, là.
Par rapport. Ils ont fait Beijing.
Il y a quoi, hein?
Ils ont fait Beijing.
C'est le même studio qui avait développé. Ouais.
Voilà, donc ils ont fait les Jeux Olympiques d'été avec 38 épreuves à peu près, donc beaucoup d'épreuves, très variées.
Il y avait un gros contenu.
Du judo, javelot, plein de trucs.
Il y avait pas de judo. Si, il y avait du judo.
Très très varié. Là, Jeux Olympiques d'hiver, bon, effectivement, c'est un peu moins varié que l'été, mais on a que 14 épreuves. Il y en a 7 gameplay,
j'ai compté.
Il manque le biathlon.
Il manque le biathlon, quoi.
Le ski de fond aussi.
Le ski de fond, le combiné nordique, du
curling.
Le curling. Il manque pas mal de choses.
Le patinage.
Oui.
Il manque pas mal de choses, déjà en termes de contenu, et après, alors moi je trouvais ça, par contre, alors au niveau réalisation, c'est pas mal fait.
C'est clair. Surtout le ski, enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, mais je trouve que les épreuves de ski sont vraiment bien foutues.
Oui, mais surtout là, il y a une nouveauté, c'est quand même aussi la vue à la première personne. Je sais pas si vous l'avez fait. Il y a une bonne impression. Non, mais.
Un petit peu gadget.
Il faut trouver quand même.
Ah, mais graphiquement, ça tient bien la route.
C'est pas pour faire mon connaisseur, mais c'est parce que vous n'êtes pas des accros aux jeux de ski sportifs. Par exemple, je me suis accroché, rappelez-vous, il y a 2 ans sur Alpine Racer, où je m'étais accroché à un jeu sur PC.
Ce que je veux dire, on est dans le classique.
Hein. Non, mais c'est bien.
Il faut connaître les qualités du jeu.
Et puis, elles sont assez fun. Elles sont plutôt bien réalisées.
Reconnaissons-les, puisqu'elles sont assez limitées. Hein, donc, elles sont là. Après, moi, au-delà, effectivement, du manque d'épreuves et de la répétitivité, moi, ce qui m'a marqué, c'est que c'est quand même le jeu officiel des Jeux Olympiques. Et on n'a pas du tout l'impression d'être aux Jeux Olympiques.
C'est ce qu'on disait aussi.
Il n'y a pas de structure de jeu.
Déjà, alors première chose, il n'y a rien. Il n'y a pas de cérémonie d'ouverture. Il n'y a même pas de flamme olympique, de cérémonie d'ouverture.
Il n'y a pas de solo, on avait dans le précédent.
C'est ce qu'on a relancé hier.
Alors on peut checker. Alors Beijing 2008, c'est qu'on n'était quand même pas dans l'opulence non plus d'effets spéciaux, etc. Mais il y avait au moins une petite cinématique autour du stade officiel pour montrer qu'on était.
Il y avait une structure de jeu,
etc.
Là en plus, on suit même en mode Jeux Olympiques, on fait les épreuves dans le sens qu'on veut. Tout ce qu'on on a juste la petite médaille à la fin.
Là, le truc qui fait mal, c'est qu'on ressort Pékin 2008, qui était quand même pas un jeu magnifique, référentiel, etc., mais qui tenait la route, et on fait le mode Jeux Olympiques de Pékin 2008. Alors on peut faire le mode Jeux Olympiques, alors on choisit une nation et on fait les épreuves. Il y a un calendrier jour par jour où il y a 4 épreuves par jour, il y a les épreuves qualificatives, et puis ensuite on arrive en finale, en machin, et puis
c'est structuré.
Même dans Pékin 2008, il y avait des espèces de systèmes de bonus où on gagnait, où on se fatiguait, où on se fatiguait moins, etc. On pouvait critiquer, mais cette structure arrivait et puis motivait pour réussir les épreuves, gagner des points, etc. Là, on a juste un tableau Excel avec 14 épreuves qu'on joue dans le sens qu'on veut. Et avec 4 participants par épreuve. C'est-à-dire que quand on joue à deux, il faut quand même se rendre compte que quand on joue à deux et que, par exemple, dans une épreuve de slalom où il y a 2 essais et qu'on loupe, on est à deux, donc on fait 4 tentatives et qu'on en loupe 3 sur 4, et ben le joueur qui en a loupé une, d'ailleurs qui a été disqualifié sur une et qui a fait un temps de merde sur la deuxième, et médaille de bronze. Parce qu'il n'y a que 4 participants.
Exact.
On est quand même dans le dans. C'est un jeu radin.
C'est un jeu à moitié fini. C'est qu'ils ont pas eu le temps. On sent qu'ils manquent de temps.
Alors moi, je suis pas d'accord, c'est qu'il est fini parce qu'ils avaient pas d'ambition. Ils avaient décidé de faire un jeu aussi moisi que ça.
Pour moi, c'est pas possible.
C'est prémédité. C'est un truc, ils le font pas au hasard. Ils ont décidé de le faire.
Je trouve ça bizarre parce que justement, c'est les mêmes qu'on fait.
Le seul truc qui tient un peu la route et qui fait un petit peu moderne, un petit peu next-gen, etc., c'est les visages des skieurs et tout ça qui sont plutôt bien modélisés.
Et encore, on peut pas. Enfin, moi, je m'attendais à ce qu'on puisse paramétrer dans tous les jeux de sport, on peut paramétrer le visage de son personnage.
On pouvait déjà pas dans Pékin, et, mais en fait, là, ils ont repris les mêmes modèles. Voilà, voilà. Ils ont repris les modèles de Pékin, ils les ont importés,
oui, ça,
ils leur ont mis.
Oui, mais ça, ça, on peut pas leur en vouloir.
On peut pas leur en vouloir. Mais du coup,
le Mario, c'est toujours le même.
À la place de profiter des économies qu'ils ont fait en utilisant sans doute le même moteur, les mêmes choses, etc. Et ben, en fait, ils font un truc avec encore moins de choses. C'est quand même dingue, quoi.
Mais ils sentaient, hein, ils sentent quand même que le jeu est un peu radin parce qu'ils le vendent un peu moins cher.
Ils le vendent 10 euros de moins, quoi. 60 euros pour ça, c'est un. Et alors, ce qui me fait le plus mal, c'est pas que ce soit un très très mauvais jeu scandaleux. Alors, on l'a dit, hein, une fois qu'on est dans les épreuves, à la limite, une épreuve de ski et tout ça, mais bon, ça dure 2 minutes.
Moi, je trouve, voilà, c'est ça, c'est que moi, je trouve sympa à jouer. Franchement, hein, je trouve sympa à jouer. J'ai pris du plaisir à y jouer. Le problème, c'est qu'on fait le tour, mais en même pas une journée, on a tout fini.
Ouais.
On n'y retourne plus après. C'est le problème, c'est qu'il manque, de variété. Comme on l'a dit, il y a 14 épreuves, dont 7 gameplay, donc 7 manières de jouer, on va dire. Et c'est très très court, c'est très léger et il manque une structure, Jeux Olympiques, etc.
Oui,
c'est dommage.
Et l'aspect un peu très triste dans ça, c'est que on a que tous les 4 ans l'occasion d'avoir un jeu un peu triple A, enfin un peu un jeu qui tient la route de Jeux Olympiques d'hiver avec du curling, par exemple le curling. Mais les fans de curling, vous y pensez aux fans de curling? ils attendent depuis le dernier jeu de JO de reprendre une partie de curling.
Mais
et là,
moi,
paf,
mais moi je
pas
kiffe
de curling.
Le curling.
Mais moi aussi, mais bien sûr.
Fantastique quand
en jeu vidéo, attends, passer le balai et tout ça, c'est génial.
C'est mortel.
Et là, ils se disent, mais voilà, j'ai attendu 4 ans pour avoir un jeu de curling next-gen et non, que dalle, quoi. Pareil pour les fans de biathlon, mais vous y pensez. Et le ski de fond.
Il manque le ski de fond aussi, ouais, clairement.
Et ce qui est gênant, c'est que les jeux, les Winter Games ou les Summer Games, c'est toujours des jeux où il y a tellement d'épreuves que même les gameplays un peu pourris et tout ça, ça nous amuse.
Bon, ouais, les enchaînes.
Non, mais par contre, ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau du gameplay, moi, j'étais assez agréable. J'ai pas joué à Beijing, hein, ou très peu, je l'avais juste vu. Je trouve que effectivement, c'est pas du button smashing. Ils ont quelques
Le gameplay est plutôt bien équilibré.
Par exemple, sur le problème, c'est que quand t'as 14 épreuves et que t'as 3 épreuves, on peut les compter, qui sont le saut acrobatique féminin et les 2 épreuves de patinage qui ont un gameplay moisi et qui sont quasiment injouables ou presque, et bah 3 épreuves sur 14, ça fait mal parce que c'est pas
le
beau.
Le saut acrobatique, tu trouves, avec les trucs.
Alors, c'est un gameplay issu des jeux de gymnastique de Pékin 2008, c'est exactement la même chose.
C'est pas trop...
ça a aucun intérêt. Ouais. Non, mais franchement, ça a aucun intérêt. Et le truc, c'est que
Non, mais c'est vrai que
moi, ce qui me rend triste, c'est que j'adore et que je suis obligé d'attendre, je sais pas où ce sera en 2014, mais je suis.
Mais c'est vrai qu'on peut pas conseiller ce jeu-là à l'achat. On peut pas parce qu'il est beaucoup trop radin en termes de durée de vie, de jeu, tout simplement. Il est trop radin. Mais c'est vrai que si on y joue chez un pote qui a le malheur de l'acheter, on s'amuse pendant une heure ou deux, on s'amuse. Ce que je veux dire, c'est que.
Moi, ce qui me rend triste, c'est que une fois tous les quatre ans, on reste avec un gros regret parce que moi, franchement, j'aime beaucoup ça, quoi. Et là, je vais être obligé d'attendre 2014, quoi. Ça me rend très, très triste. Bon, bah voilà, c'était Vancouver 2010. On en a fini cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément?
Moi, j'ai profité de mes vacances pour lire et j'ai lu donc un classique de la littérature que j'avais pas encore eu le temps de lire parce qu'il est assez épais quand même, hein, il fait 400 pages. C'est le 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Mm-hmm. Donc c'est un bouquin de référence et effectivement c'est un bouquin extrêmement intéressant qui m'a plongé dedans. Je suis pas du tout normalement client de ce genre d'écriture. C'est une écriture un peu Zola-esque, c'est-à-dire qu'en fait il recrée une épopée, une famille sur des générations, et normalement ça, moi, ça me saoule un peu. Et là c'est écrit c'est juste magique et ça se lit, faut le temps, hein, parce que c'est assez gros, mais ça se lit extrêmement bien. Donc voilà, et il fait partie de mes, du coup, hop, il est rentré dans ma liste de mes 10 bouquins préférés. Voilà,
direct.
Donc c'est 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez.
Patrick. Mm-hmm.
Bien, moi j'étais à Bercy mercredi dernier soir.
Ouh là là.
Pour revoir Dépêche Mode, évidemment, qui faisait sa tournée, qui donc était à Bercy j'ai fait la deuxième date en fait. Hein. Mm. Et très bien, évidemment, hein, Dépêche Mode, grand groupe, fabuleux.
J'imagine très bien Patrick, ah non, grosse merde. Oh, j'étais hyper déçu finalement.
En revanche, il y a quelques bémols. C'est vrai qu'il y avait, il y a une espèce de reprise un petit peu des. En fait, les chansons ne sont pas reprises de façon très différente depuis la tournée, ouais. Depuis une dizaine d'années. C'est vrai qu'il y a une espèce de.
Ça stagne.
Voilà, c'est un peu dommage. En revanche, voilà, il y avait les titres du dernier album, évidemment, et puis tous les classiques. On va pas énumérer ici
non,
parce que ça prendrait
non.
beaucoup de temps. Mais donc voilà, c'est toujours un bonheur de voir Depeche Mode sur scène. Ils ont toujours la pêche et voilà.
D'accord, bah moi j'ai repris un peu d'activité extra jeux vidéo, hein. C'est vrai que je suis un peu monomaniaque en ce moment, hein. Je fais un peu que ça. Là j'ai fini la série Romanzo Criminal, la série, donc, qui est exactement sur le même scénario que le film, enfin exactement, donc un peu plus développé, etc. Donc qui est sur cette bande de jeunes qui, dans les années 70, en même temps que les Brigades Rouges, alors c'est pas historique, hein. C'est donc un roman, c'est issu d'un roman, je ne sais plus de qui, veut prendre Rome, donc qui est la ville italienne qui n'est pas contre ni par la mafia ni par la Camorra. Et franchement, en série européenne, j'ai été très 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 agréablement surpris. C'est vraiment très très bien fait. Alors j'ai pas vu le film, hein, donc pour moi il y avait pas de redite, mais vraiment les acteurs sont très bons.
C'est les mêmes acteurs dans le film?
Non, c'est pas du tout les mêmes acteurs.
C'est un très bon film d'ailleurs.
Et franchement, donc c'est l'histoire du Libanais, de El Dandy, de Fredo, qui c'est une bande un peu d'amateurs au début et qui prennent le contrôle de Rome, du crime à Rome. Et franchement, ça m'a rappelé quelques bonnes séries américaines. Enfin, en termes de niveau de narration, de niveau de construction, etc.
C'est pas Braco quoi.
Voilà. Bah, je n'ai pas vu Braco, mais
c'est pas bien.
C'est surestimé. C'est parce que je crois que c'est parce que c'est Canal Plus derrière que c'était tout le monde, enfin des louanges incompréhensibles.
Ah ouais.
Incompréhensibles. C'est bref. Je veux pas.
Alors le seul truc bizarre dans Romanzo Criminale, c'est que l'acteur qui joue le personnage principal, le Libanais, qui est vraiment une ordure finie, quoi. Enfin vraiment est très très bien joué. C'est le problème, c'est que l'acteur, il a la tête d'Alexandre Astier.
Tu t'attends à la petite vanne.
Voilà, tu t'attends un moment à ce qu'ils sortent une blague, quoi. Ah non, bah pas du tout, ils butent les mecs et tout ça. Ceci dit, voilà, c'est le seul truc. C'est vraiment très très bien. Et bah voilà, on se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur Libé Labo.
J'ai toujours pas fait de soirée poker chez moi. Hein.
Ouais. Alors, franchement, normalement, c'était le truc qui allait avec ton appart.
Ouais.
Universal Soldier, on n'a pas eu.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.